Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h43, merci d'écouter RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.
Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL en cette rentrée. Ça fait des semaines qu'on ne vous a pas entendu. Or, tout semble se dérégler pour Emmanuel Macron. La magie présidentielle aurait disparu. C'est le bruit de fond qui accompagne précisément cette rentrée. Vous hurlez avec les loups, Laurent Berger, ou vous êtes plus indulgent avec cette rentrée présidentielle?
Moi, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est pas la magie. J'ai jamais cru à la magie. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la situation. La situation. Et nous rappelle quoi l'été? Elle nous rappelle deux éléments très forts. Un, que les enjeux écologiques et climatiques sont toujours là et nous sautent à la figure d'une certaine manière. Et deux, qu'on a besoin de politiques de solidarité si on veut aujourd'hui vivre décemment dans notre pays. Et je crois que c'est ce que je vais rappeler au Premier ministre aujourd'hui, on a besoin de politiques fortes, d'investissements dans le moyen et long terme, ce que malheureusement on ne fait pas parce qu'on a une forme de course à l'échalote, de mesures qu'on égrène sans qu'ils font pas beaucoup sens.
C'est ça qui rattrape aujourd'hui, c'est ça qui fait bugger ce qu'on appelle le logiciel présidentiel.
Vous savez, faut pas personnaliser. C'est pas forcément la personnalité de Monsieur Macron qui est en jeu. C'est la situation de notre pays et de l'Europe. Et ce qui nous rattrape, ce qui est sûr, ce qui nous rattrape, c'est l'absence de politique de long terme. C'est l'absence de politique d'investissement dans la transition écologique. C'est l'absence de politique d'investissement dans des politiques sociales, de formation, d'accompagnement des personnes pour sortir des situations de pauvreté. C'est ça qui est en jeu.
Certainement, Laurent Berger, mais vous avez tellement, permettez-moi, fustigé le caractère ultra centralisateur d'un président, tenter de négliger les corps intermédiaires que quand même on ne peut pas passer complètement
encore une fois Madame Martichoux, le président c'est une chose, il a sa personnalité c'est une chose.
Oui, mais vous l'avez mise en cause dans la mise en œuvre de la politique.
Vous savez, quand on dirige, quand on gouverne, quand on est responsable d'une organisation syndicale, on est soumis à la critique, c'est normal. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas tant ça que la situation telle qu'elle est. Oui, il y a un déficit de démocratie sociale dans notre pays. C'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire qu'on le voit bien, on ne pourra pas sortir de la situation qui est la nôtre sans faire avec les associations qui luttent contre la pauvreté, avec les ONG qui luttent pour la transition écologique, avec les organisations syndicales qui ont envie de construire des politiques de formation professionnelle, qui ont envie de construire des politiques de protection sociale qui sont adaptées aux enjeux du 21e siècle. Et c'est ça qu'il faut comprendre quand on est au gouvernement, c'est qu'on ne fera pas tout seul, il
n'y
a pas la martingale que le gouvernement trouvera tout seul pour mettre le pays sur les voies d'une transition écologique,
justement,
d'une politique de
solidarité.
Est-ce
qu'Emmanuel Macron, à votre avis, et le gouvernement, et Édouard Philippe qui dirige l'équipe, commencent à comprendre qu'il faut faire avec?
J'espère.
Est-ce que vous avez des indices? Vous avez été reçu par Emmanuel Macron en juillet. Aujourd'hui, il y a cette concertation à Matignon. Est-ce qu'il y a, de ce point de vue-là, il y a quelque chose
qui change? J'espère, mais vous savez, on le verra sur deux sujets. On le verra sur l'assurance chômage, où une négociation va s'ouvrir. Si le gouvernement nous dit, voilà, c'est juste une logique budgétaire, une logique de paramètres. Vous vous débrouillez dans cette logique budgétaire et c'est là-dessus qu'il faut discuter. Et vous discutez pas du fond, finalement, de la logique, du sens qu'a doit avoir l'assurance chômage. Ça sera qu'on n'aura pas été entendu. Et sur la santé au travail. Sur la santé au travail, qui est l'autre sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va aller vers une logique de négociation de la qualité au travail dans les entreprises, dans les branches professionnelles, ou est-ce qu'on va aller vers une logique de comment on fait en sorte que budgétairement, les arrêts de travail pèsent moins, etc. C'est ça qui est en jeu.
Alors d'abord, l'assurance chômage. Muriel Pénicaud, sur RTL, dimanche, a dit une chose très claire. Je n'ai pas de tabou. Tout est sur la table. Vous avez des tabous, vous?
Non, moi, je n'ai pas de tabou. Il n'y a pas de question d'avoir des tabous.
Avez des lignes rouges?
J'ai des principes. Le principe, c'est que aujourd'hui, il faut un niveau d'indemnisation qui soit de bon niveau, qui doit être maintenu de bon niveau pour
Pas de baisse d'indemnisation.
Après, on doit pouvoir regarder les règles et l'articulation entre la solidarité nationale
pas
et la solidarité internationale.
Pas de baisse, mais dégressivité possible
non,
ou pas?
Non, mais la dégressivité, regardez. Tous les spécialistes vous disent que ça n'a jamais rien produit dans aucun système au monde d'assurance chômage en termes d'incitation à l'emploi.
Même pour les 4 qui touchent 6 000, c'est le maximum.
Vous savez, l'assurance chômage, c'est un système assurantiel. Donc, il y a un consentement à payer, à cotiser selon son niveau de salaire, parce qu'on va recevoir, si on se retrouve au chômage, selon ce niveau de salaire, ce qu'on aura cotisé. Si vous mettez fin à cette logique assurantielle, vous allez avoir, du côté des cadres, une baisse du consentement à la solidarité interprofessionnelle qu'est l'assurance chômage. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Donc, vous dites pas touche à ça.
Je ne dis c'est pas de dégressivité pour les cadres.
D'accord. Ça, donc, vous ne m'en voulez pas.
Quand on ouvre une négociation, les lignes rouges, ça sert à chacun de se réfugier derrière ses idéologies. Moi, j'essaye de trouver les voies de passage pour qu'on ait un système d'assurance chômage qui, deux choses, permette une bonne indemnisation des demandeurs d'emploi et permette de les accompagner vers le retour à l'emploi en responsabilisant les entreprises.
La dégressivité, pour vous, ça n'incite pas au retour à l'emploi.
Ah non, mais ça, toutes les études économétriques qui ont été faites sur l'assurance chômage le prouvent. Ça n'incite pas le retour à l'emploi.
Le patronat, le MEDEF, M. Roux de Bézieux, hier, dans Les Échos, expliquait qu'il était favorable à ce qu'il y ait une allocation universelle chômage associée au RSA, qui serait gérée par l'État, et puis une complémentaire qui, elle, serait gérée par les partenaires sociaux. On en discute ou pas ?
Mais bien sûr, que, de toute façon, on va discuter des propositions des uns et des autres. Ouais. Vous savez, M. Roux de Bézieux, hier, il dit aussi qu'il ne veut pas d'approche paramétrique. Il veut discuter du fond de l'articulation du système. Nous, ça nous va bien.
Non, on veut ça, discuter c'est une philosophie qui vous intéresse, celle qu'il est en train de développer.
J'ai entendu M. Roux de Bézieux à l'Université d'été du MEDEF. Je vais peut-être vous surprendre. Il a dit qu'il faut que les entreprises assument leur part de responsabilité. Il faut qu'on rende, d'une certaine manière, aussi à la société ce que la société nous donne. Et c'est le cas, pour le coup, puisqu'avec le CICE et les allègements de charges de cotisation, il y a quand même 40 milliards cette année. Chiche, discutons, négocions. Mais il faut que le gouvernement nous laisse cet espace de négociation pour construire une assurance chômage qui soit bonne pour les demandeurs d'emploi et qui ne permette pas aux entreprises de structurer leur offre d'emploi en fonction des règles. Et je pense notamment à la précarité qui se développe.
Vous êtes déjà vu avec M. Roux de Bézieux, justement, vous
oui, on s'est déjà vu
vous
depuis
allez...
qu'il est élu, ouais, évidemment, on s'est déjà vu, heureusement. Vous savez, c'est normal dans notre pays que les interlocuteurs entre eux se voient.
C'est un bon profil pour diriger le patronat ?
Mais ça, c'est pas à moi d'en juger. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que j'ai entendu ce qu'il a dit à l'Université d'été du MEDEF, et s'il veut discuter, et il a l'air de vouloir discuter, eh bien, discutons. Il veut aussi discuter de l'Europe. C'est un beau sujet, l'Europe.
Ça va être un sujet, effectivement, de toute façon, qui va nous occuper jusqu'aux élections, au moins fin mai, même si l'Europe, ce n'est pas seulement une élection européenne. Un petit mot, vous parliez de santé. Est-ce que vous allez parler avec Édouard Philippe de sa formule qu'il a eue dans le journal du dimanche, il y a une dizaine de jours je vous la cite, « Le nombre de journées indemnisées est passé de 11 à 12 par an, indemnité maladie, et par salarié du privé. C'est comme si notre pays avait instauré un jour de congé supplémentaire. »
Oui, je trouve que c'est une très mauvaise formule. C'est pas bon de prendre les choses de cette manière-là. On sait bien que l'augmentation, et c'est un vrai sujet, l'augmentation des arrêts de travail, il est lié aussi à un vieillissement de la population et un recul de l'âge de départ à la retraite. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur la qualité de vie au travail, sur la façon dont les gens vivent leur travail.
Ça vous choque que le gouvernement prenne l'affaire sous l'angle du coût et non lorsqu'on pas sous l'angle
lorsque,
des causes
lorsque,
de ces arrêts maladie
lorsqu'on a fait notre enquête sur le parlons travail, il y a 45% des personnes qui nous ont dit qu'ils avaient des impacts physiques de leur travail, sur leur santé. Ils avaient des impacts physiques. 45%. Donc ça veut dire qu'il y a encore le travail est encore générateur de difficultés de santé. Et bah, traitons ces questions-là par l'amélioration de la qualité de vie au travail plutôt que
de chercher des économies.
De chercher les économies, c'est en soi pas choquant, notamment de faire qu'il y ait moins d'arrêts de travail, mais pas en ayant une logique de culpabilisation, en ayant une logique de prévention. La prévention sur la santé au travail, c'est la clé pour faire baisser les arrêts de travail, c'est la clé pour davantage de bien-être au travail, et c'est là-dessus qu'on veut ouvrir des négociations avec le patronat.
Laurent Berger, je reviens à Emmanuel Macron, c'est un homme que vous avez aussi souvent décrit autoritaire, décidant tout seul. Comment vous analysez ces hésitations sur le prélèvement à la source?
On aura la réponse tout à l'heure, j'ai l'impression. Le prélèvement à la source pour la CFDT, c'est d'abord une mesure technique avant d'être une réforme fiscale
une
qu'on aurait souhaité. Ça a du sens. Ça a du sens de vouloir prélever à l'instant T, mensuellement, l'impôt plutôt que de payer l'impôt sur les ressources d'année précédente quand on sait que les parcours sont beaucoup plus discontinus qu'auparavant, les carrières, etc. Le seul problème, c'est que tout le monde s'y est préparé. 40 000 agents de la DGFiP ont été formés, mais on nous annonce aujourd'hui que peut-être ça ne se ferait pas. Dans les entreprises, ça commence à se préparer aussi. Et donc la question, c'est est-ce qu'elle est politique ou est-ce qu'elle est technique ?
Et vous croyez à l'explication technique ? Vous avez des agents CFDT ?
Nos agents nous disent qu'il y a un certain nombre de difficultés, mais il n'y avait pas d'alerte en disant que ça ne fonctionnait pas.
Il n'y a pas de péril ?
Vous savez, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il n'y a pas de péril, parce qu'il suffit qu'il y ait quelques bugs pour que il y a un problème. Non, ce que je vous dis, c'est que d'abord les agents de la DGFiP, il y en a eu, il y a des suppressions d'emplois.
L'administration fiscale.
Ouais, dans les finances, il y a eu beaucoup de suppressions d'emplois aussi ces dernières années, ce qui fait que il y a aussi un peu moins d'accompagnement des contribuables. Mais le prélèvement à la source, ça ne fait pas, premièrement, une réforme fiscale que la CFDT souhaite, parce que ça ne se marie pas très bien avec le quotient familial. C'est-à-dire que il y a aussi un problème technique qui fait que on veut individualiser et en même temps il y a le quotient familial qui intervient là-dedans. Mais ceci étant dit, c'est quand même assez bizarre que cette réforme qui était sur les rails, tout d'un coup, on dise alors qu'il y a eu un tel investissement dans la mise en œuvre de cette réforme, on dise il y a un problème et que ça vienne du gouvernement, cette expression-là. Donc c'est au gouvernement de décider. Si ça ne se fait pas,
ça traduit quoi? Vous dites c'est bizarre. Ça traduit une fébrilité. C'est pour des raisons politiques.
Savez, ça c'est de l'analyse politique. Il a peur politique. De retour de bâton. Moi je suis un syndicaliste. Ouais. Je m'en fiche. Je vais vous dire que ça se traduit une fébrilité, etc. Ce qui m'intéresse c'est la vie concrète des citoyens. Et les citoyens, on les a préparés à l'impôt à la source. On a tous reçu récemment un courrier de
Monsieur
Darmanin.
Vous êtes mensualisé,
vous? Oui, je suis mensualisé.
Oui, donc ça ne va pas changer grand chose pour vous, c'est ce que.
Sauf le jour où je change de travail potentiellement.
Ouais.
Non mais vous savez, il y a des gens qui touchent l'année N un certain nombre de revenus, et l'année N plus 1, ils ne touchent pas les mêmes. Et ils sont imposés sur l'année N. Et ça a du sens en termes d'impôt de prélèvement à la source.
Un petit mot du budget, puisque vous allez aussi en parler à Édouard Philippe, que vous voyez tout à l'heure. Il l'a présenté il y a une dizaine de jours, avec des priorités, et toujours la même ligne de force, entre guillemets, c'est-à-dire le travail paye. Et on demande effectivement une solidarité des inactifs, pour les actifs en particulier, les salariés les plus modestes. Ça vous va ?
Non, vous savez, on demande une solidarité aussi aux retraités modestes. Là, la logique budgétaire, quoi qu'il en dise, le Premier ministre, les annonces qui ont été faites dans le JDD sur le budget, c'est des logiques de rabot budgétaire.
Bruno Le Maire disait il y a une semaine à votre place, je ne suis pas le raboteur en chef.
Oui, mais c'était une logique de rabot.
Il y a un minimum vieillesse qui est revalorisé au-delà de l'inflation. Oui. Le RSA est revalorisé au-delà de l'inflation.
Il faudrait se réjouir. Oui, mais vous savez, il faut parler en chiffres réels. Le RSA, c'est 480 euros, quoi. Faut vivre avec le RSA. Donc moi, il faut arrêter ces logiques de. Il y en aurait qui profiteraient sur le dos des autres. Il faut des logiques de solidarité. Moi, j'attends beaucoup, par exemple, du plan pauvreté qui va sortir dans quelques jours pour savoir si on a un discours empathique à l'égard des personnes qui vivent les situations de pauvreté ou alors on a une logique culpabilisatrice.
Rien à voir, mais de l'empathie quand même pour Nicolas Hulot. Qui a dû claquer la porte ?
Oui, mais ça, c'est connu. On a milité ensemble, on se connaît. J'ai de l'empathie et je crois que c'est une alerte qu'il faut prendre très au sérieux. Notre monde va au péril sur la question environnementale et climatique et il est grand temps de réagir, d'investir.
Une conclusion.
Et d'ailleurs, je signe une tribune cette
climat.
Semaine avec beaucoup d'autres personnes d'Alternatives économiques pour qu'il y ait un vrai investissement dans la transition écologique. Je crois qu'on a besoin d'investissement. De la même manière qu'on a besoin d'impact finance-climat en Europe, c'est au niveau européen qu'on s'en sortira. Et si on ne veut pas laisser les populistes et l'extrême le droit de progresser en Europe, comme ça menace encore aujourd'hui en Suède, on a intérêt à mener des politiques de transition écologique en investissant massivement et des politiques de solidarité.
C'est une arme pour lutter contre le populisme. Merci beaucoup Laurent Berger.
La solidarité, l'écologie et l'Europe, donc à l'agenda de la CFDT et de Laurent Berger. En cette rentrée, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'entretien sur le site rtl.fr.